Good Morning Business, le débrief de la matinale.
Et notre débrief ce matin, comme d'habitude, il a commencé pendant la publicité, mais on va reprendre tout ce qu'on se disait entre nous. On est avec Pierre-René Lemas, avec François Chollet et Stéphanie Hospital qui vient de nous rejoindre, présidente de One Rack Time. Notre premier sujet, la transition énergétique, la question à laquelle vous devrez répondre. Mais on va vous donner les détails du plan présenté par Elisabeth Borne. Mais écoutez bien ce que va vous dire Nathan, parce qu'après la question, ça sera qui doit payer ?
Qui paye l'addition ?
Qui paye l'addition des 66 milliards d'euros ? Ce qui est sûr, Nathan, c'est que ça va coûter cher. Il y a un plan très détaillé.
Alors d'abord, quelques objectifs. Premier point,
le micro.
En 2030, voilà. L'objectif...
Ah, on n'a pas votre micro, Nathan. On va juste faire un premier tour de table avant de vous redonner la parole, peut-être. Juste parce que le débat a commencé avant la publicité. Effectivement, qui va payer ? Le rapport de France Stratégie recommande notamment, symboliquement, mais pas que, de faire payer les plus riches, en tout cas le patrimoine financier des Français. Alors, je ne sais pas si on va toucher à l'assurance vie, si on va restaurer l'ISF. François, il faut faire quoi ?
On a été capable de faire des mesures qui permettent d'améliorer, je prends l'exemple de l'automobile, avec des bonus et des malus pour équilibrer et réorienter les achats de véhicules vers des choses plus vertueuses. Et c'était à coût proche de zéro pour l'État. Je pense qu'on peut trouver un certain nombre de solutions déjà, on va dire, neutres. Ensuite, pour les budgets. Hein. Ensuite, la deuxième chose, c'est de dire devenir le plus vertueux au monde, on n'en est pas déjà très loin d'être parmi les plus vertueux au monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer, mais si c'est pour aller acheter à l'étranger des choses produites dans des conditions de production de CO2 absolument catastrophiques, faisons un bilan intégrale de la consommation et du carbone des Français et essayons d'améliorer les grandes masses. Et aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit dans notre production et notre consommation intérieure que nous ayons le plus gros du sujet. Je pense que c'est plus problématique lorsqu'on achète des choses qui ont été produites dans des conditions particulières.
Et donc vous traitez une taxe carbone de frontières, par exemple.
Une taxe carbone me paraît être la meilleure solution, mais ça me paraît tellement
Mais c'est, ça,
évident.
C'est la solution économique compréhensible pour les économistes, mais politiquement, c'est très compliqué quand même, puis socialement aussi.
Sans doute, mais à un moment, il faut quand même se poser les vraies questions. L'objectif, c'est quand même de réduire notre impact humain sur cette planète. Ça ne peut pas se faire à l'échelle de la France, ça peut s'envisager à l'échelle de l'Europe, mais si c'est pour derrière acheter des produits provenant de l'autre bout du monde et fabriqués dans des conditions de travail, d'émissions de CO2, tout ça, déplorable, enfin, on ne peut pas s'en sortir comme ça.
Alors, on va donner la parole dans un instant à Pierre-René Lemas et à Stéphanie Hospital, mais on a retrouvé le micro de Nathan Cocampo. Nathan, il y a un plan et ça va coûter cher.
Oui, d'abord, reprenons un peu les objectifs. Premier point d'étape en 2030, l'objectif est de réduire d'un tiers les gaz à effet de serre de la France par rapport à aujourd'hui pour atteindre 270 millions de tonnes équivalent CO2. Il reste donc que 8 ans pour faire la même réduction qu'au cours de ces 30 dernières années et ce, tout en réindustrialisant la France. Alors comment faire ? La première ministre a présenté une série de leviers d'action par secteur, des économies de millions de tonnes équivalent CO2 à réaliser d'ici 2030. Par exemple, moins 37 millions pour le transport, moins 34 millions pour le bâtiment, un effort demandé pour moitié aux entreprises, un quart de la réduction dépend de l'action des ménages et un quart des collectivités. Alors maintenant, voyons un petit peu les pistes de financement. Pour le moment, rien n'est sur la table, mais hier sortait un rapport de France Stratégie sur le sujet. Selon ce rapport, l'investissement supplémentaire sera de 66 millions d'euros par an jusqu'en 2030. Milliards, pardon. Oui. 66 milliards d'euros par an jusqu'en 2030, soit plus de 2 points de PIB. Dans le détail, c'est par exemple 48 milliards de plus dans les bâtiments, 15 milliards pour les passoires thermiques, un objectif toutefois atteignable sans décroissance selon les auteurs du rapport, mais qui évoque aussi la décennie de toutes les difficultés avec une dette publique qui devrait fortement se creuser de 10 points de PIB en 2030. On passera à 25 points en 2040. Dans ces conditions, il faudra aussi en appeler aux plus aisés. Les auteurs de France Stratégie évoquent l'idée d'un prélèvement exceptionnel et temporaire sur le patrimoine financier des 10% les plus aisés, dédiés à la transition écologique.
Merci Nathan. Stéphanie Hospital, vous avez beaucoup investi avec votre fonds d'investissement dans les nouvelles technologies. Est-ce que, parce que là l'État se mêle de cette plan de décarbonation, veut dépenser des milliards, veut taxer les Français, augmenter la dette de notre pays, on verra ça avec Pierre-René Lemas tout à l'heure, mais Stéphanie, est-ce qu'on pourrait, est-ce que les industriels, est-ce que les secteurs économiques sont prêts pour la transition ? Est-ce que la technologie est là ?
Alors, oui, bien sûr, la technologie est là, on est prêt pour le faire, mais une fois de plus, il faut inciter à investir. on a plus de 5000 milliards qui dorment dans l'épargne des Français. Donc il faut inciter à investir dans l'économie réelle, dans les sociétés qui vont préparer la transition écologique, qui vont inventer des technologies qui vont permettre de décarboner, qui vont permettre de mieux utiliser l'eau, parce qu'on parle beaucoup du carbone et on parle pas assez de l'eau. Nous, chez One Ragtime, on a financé une société qui s'appelle Mayan Lab, qui est focalisée, créée par Emma Aziza, qui est focalisée sur toute la gestion de l'eau, et c'est un sujet aussi important que le carbone. Donc il faut inciter à investir. Pour inciter à investir, c'est quoi? C'est soutenir par exemple la mission Midi. Hein, c'est une mission que tous, et je parle avec ma casquette France Digital, que tous les acteurs de la vie économique appellent, puisqu'elle vise à permettre d'investir beaucoup plus sur des sociétés jeunes entreprises innovantes de rupture, en mobilisant l'épargne des Français. Et je pense que c'est le premier levier qu'on peut avoir, c'est pas taxer, mais investir.
En même temps, si vous menacez de taxer, vous allez peut-être forcer à investir. Ça sera peut-être soit l'un, soit l'autre.
Alors, moi, je préfère toujours l'incitation positive. Ouais. Et si on explique aux Français, aux entreprises, que investir dans des jeunes entreprises innovantes, de croissance ou de rupture, ça va permettre d'avoir une économie fiscale qui va se traduire aussi en emploi, je pense que c'est la meilleure façon pour aligner tous les intérêts.
Pierre-René Lemain.
Ah non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Ce que je trouve intéressant dans le rapport... D'abord, il y a pour moi un mystère. Le mystère, c'est la première ministre fait des annonces... Mmh. Qui vont se concrétiser en juin, si j'ai bien compris.
Ouais.
Le jour où sort le rapport, dont on ne sait pas si c'est parallèle ou si l'un est la conséquence de l'autre.
Si c'est télécommandé ou pas.
Deux jours après que le ministre chargé de l'écologie ait annoncé un plan France 4 degrés, il doit bien y avoir un rapport de
l'un à l'autre. C'est un peu gribouille, c'est ça ?
Enfin, je ne comprends pas très bien. Je crois. J'espère que d'ici le mois de juin, on arrivera à avoir une stratégie à peu près déterminée. Tout ça est un peu étrange. Alors, sur le rapport de Pisani-Ferry, moi, je le trouve passionnant, d'abord.
Ouais.
Je l'ai lu attentivement, tôt le matin, mais je l'ai trouvé absolument passionnant. Il a deux vertus. Le premier, c'est qu'il dit « c'est cher ». C'est cher. C'est
66 milliards par an.
Je ne sais pas si c'est 66, 64 ou 72. Lui fait cette évaluation, elle est vraisemblable. Et donc, on sait que c'est cher. C'est-à-dire que ce ne sera pas indolore. Deuxième chose qui me paraît importante dans son rapport, c'est qu'il dit il faut le planifier sur la durée. Ce qu'avait annoncé d'ailleurs le président de la République en parlant d'un conseil, de secrétaire général à la planification stratégique. Il faut le planifier. Ça aussi, c'est un point qui me paraît absolument important. On peut pas y aller à la petite semaine. Il dit une troisième chose, il faut que ça se passe dans un cadre européen. Il y a tout un paragraphe à la fin du rapport, dont personne n'a parlé, dans lequel il dit, enfin jusqu'ici, et dans lequel il dit, il faut qu'il y ait une cohérence européenne. L'Europe peut pas se contenter de fixer des objectifs, il faut qu'elle dise quels sont les moyens. Compte tenu de tout ça,
ouais.
Il dit bah tout ça va coûter extrêmement cher, et il dit il y a trois manières de le faire. La première, les économies. La deux, en gros,
ouais, notamment sur le,
ça c'est 15%. Voilà.
Notamment sur les avantages fiscaux sur les énergies brunes,
tout ce qui est brun, voilà. Bon. Ça va pas être un dollar.
Non.
Deuxièmement, il dit la dette.
Alors ça, c'est pas réaliste, franchement, Pierre-René. 25 points de PIB de dette en plus en 2040, alors qu'on a dégradé notre note il y a quelques jours.
Je suis pas l'avocat de Pisani. Je dis, il donne des réponses. Il dit, c'est cher. On peut y répondre par des économies, par de la dette, et par un meilleur équilibrage des coûts entre, en gros, les plus pauvres et les plus riches, entre les classes moyennes et le reste du monde. Est-ce que tout ça est réaliste? Honnêtement, je suis pas capable de le dire. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on doit prendre conscience du fait que la transition écologique va coûter et ne va pas être rentable avant très longtemps. Et ça, c'est juste. Il n'est pas le premier à le dire. Les économistes américains le disent depuis au moins 10 ans. Ça va coûter très cher et la rentabilité ne sera pas immédiate. Comment on règle ce problème de calendrier?
Ça peut être que l'État, selon vous, qui gère...
Pour moi, ça peut être plusieurs sources. Ça peut être l'État, ça peut être, quand je dis l'État, les économies budgétaires. Ça peut être la dette, mais la dette, c'est pas l'État. La dette, c'est nos enfants. La dette, c'est un coût différé, la dette. Hein. Ça peut être de nouvelles formes de taxation, par exemple la taxe carbone, aux frontières ou en interne, j'en sais rien. Et puis, évidemment, il faut que ce soit équilibré. On ne peut pas prendre le risque, n'importe quel gouvernement sera devant la même situation, de dire on fait payer quelque chose au risque d'avoir des gilets jaunes dans la rue et les plus riches en sont exonérés. La vraie difficulté, c'est que on est quand même dans une contradiction de politique globale, de politique économique. On peut pas à la fois, la semaine passée, recevoir les investisseurs étrangers en disant « Venez chez nous, c'est formidable, la fiscalité a été abaissée, investissez hein », et dire une semaine après « Ben oui, attendez, on doit payer le climat et la transition écologique, et donc ça risque de coûter plus cher ». Cet équilibre-là, c'est en même temps, en quelque sorte, cet équilibre-là, il va être compliqué à trouver.
François Chollet, il y a un paradoxe, effectivement, Stéphanie nous disait « Il faut que l'épargne des Français aille vers la transition », et le gouvernement nous dit « Il faut que l'épargne des Français aille vers de la dette », donc le financement des déficits de l'État.
Oui, mais là on arrive dans mon métier, c'est-à-dire qu'on collecte de l'épargne de la part des agents économiques, qu'ils soient entreprises ou particuliers privés, et on oriente cette épargne en tant qu'investisseur professionnel sur des projets d'investissement qui sont de plus en plus vertueux, parce que tout le monde, ou moins, ou près, de loin, adhère au principe de l'investissement responsable, et petit à petit, parce que c'est une demande forte de la part de nos clients, tout simplement, et de la part de la réglementation qui nous y conduit de la même façon, ça conduit à ce que nos investissements soient de plus en plus regardants sur leurs vertus ou sur leurs difficultés vis-à-vis des critères ESG. Et donc ça, c'est extrêmement vertueux, c'est un mouvement qui est massif, et on parle pas là, pour le coup, dans les ordres de grandeur, on est vraiment dans les ordres de grandeur capable de venir se substituer, en tout cas pour partie significative, aux dépenses publiques de l'État. Mais ça concerne le financement des projets et des entreprises et l'amélioration...
Vous dites laissez-nous faire, en fait. Le marché suffit.
Alors, le rythme imposé par, je dirais, les fonds d'investissement aux entreprises, il est quand même assez soutenu. On le voit dans les AG, on le voit dans tous les, on va dire, tous les thermomètres qui ont été rajoutés sur tous les rapports annuels des entreprises où on peut suivre l'ensemble des éléments. Et on le voit aussi dans ce que ça a entraîné dans les réactions. Je peux prendre l'exemple de Total qui a encore annoncé hier...
Oui. Une ferme photovoltaïque, énorme.
Multiplication de fermes, je crois que c'est une trentaine. Mais ça veut dire simplement que tout cela amène à des changements de comportement de la part des entreprises extrêmement vertueux. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui va être d'une nature très puissante pour changer les choses. Est-ce que ça va répondre au problème dont nous parlions là, qui consiste à dire... Regardons le bilan carbone de la France, non pas dans ce qu'elle fabrique et dans ce qu'elle produit en interne, mais dans ce qu'elle consomme au niveau mondial, je ne crois pas.
La question, Pierre-René, c'est presque, est-ce qu'on peut faire confiance aux entreprises pour faire la transition énergétique d'elles-mêmes, poussée par les fonds, par les clients, ou est-ce qu'il faut, à un moment donné, que l'État dise, non, moi je prends, puis je m'en occupe, quoi.
Non, c'est pas une question de confiance, c'est, parce que, évidemment, je suis aussi témoin et acteur de ce mouvement vertueux vers l'investissement vert. On voit bien qu'on y va et que la réglementation y pousse, et ça, c'est bien. Le problème, c'est l'équilibre entre, d'un côté, la performance et la rentabilité, de l'autre, les obligations au climat. Le raisonnement de Pisani-Ferry, moi je suis pas assez savant pour dire s'il est pertinent ou pas, mais je soupçonne qu'il est pertinent, c'est dire attention, quand on va substituer à une énergie fossile des énergies renouvelables, on n'augmente pas pour autant la capacité de production et on n'augmente pas forcément la valeur.
On va être moins performant à court terme, c'est
donc, ça. Donc, non seulement on risque d'être moins performant à court terme, mais ce coût en investissement ne sera pas compensé par une augmentation de la valeur.
Il ne parle pas de décroissance, mais il parle de croissance très molle.
Il dit, à un moment M du temps, si vous enlevez le charbon et que vous mettez de l'énergie renouvelable, vous faites le même résultat, vous faites la même production... Vous n'avez pas de plus. Et donc, ce différentiel, il faut bien que quelqu'un le paye. C'est ça qu'il dit.
Stéphanie ?
Je crois qu'on va tous payer. Je crois que ça va être une mobilisation à la fois du budget des entreprises. Et pour ce faire, il faut inciter. Mais il faut inciter positivement. Inciter par des mesures fiscales qui tentent à orienter la capacité d'investissement des entreprises vers des énergies renouvelables. Effectivement, il faut inciter à beaucoup plus consommer localement et produire localement. Et on a un plan de réindustrialisation verte de la France pour 2030, 2050, parce que ça ne peut pas se faire en 7-8 ans. Et puis, il faut derrière inciter beaucoup plus l'épargnant à ne pas laisser son argent sur son livret A ou sur son assurance vie, mais à financer l'économie réelle dans des projets qui sont des projets de, qui vont aussi créer de l'emploi. Et je pense que ça, on est encore très très loin. Et quand on regarde aussi aujourd'hui les fonds de pension au niveau européen, bah, les fonds de pension, ils ne sont pas derrière la tech, ils ne sont pas derrière les fonds d'investissement. Et tout ça, ça ne va pas se faire sans qu'il y ait des mesures d'incitation par l'État. En tout cas, et là encore, en tant que patronne d'un fonds d'investissement, avec One Ragtime, on accueille avec grand plaisir toutes les initiatives des entrepreneurs, mais aussi des investisseurs, pour aller vers de l'économie durable et verte.
Allez, il y en a un qui va devoir payer, en tout cas vous disiez qu'on va tous payer, mais Mark Zuckerberg aussi va devoir payer normalement 1,2 milliard d'euros d'amende à la CNIL irlandaise pour ne pas avoir respecté le fameux règlement général sur les données privées, puisque les données des utilisateurs européens sont encore stockées aux États-Unis.
Oui.
Où les services secrets américains font ce qu'ils veulent.
Bah, c'est le problème.
Et donc, petite amende d'1,2 milliard.
Bah, petite, c'est quand même un record. Hein. 1,2, ça commence à devenir un peu costaud. Et effectivement, ce qui est reproché à Facebook, bah, c'est ces fameux transferts de données illégaux. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un accord en cours de négociation entre Washington et Bruxelles, justement, sur les transferts de données entre l'Europe et les États-Unis. Sauf que cet accord, il n'est pas encore complètement négocié. Il doit remplacer le fameux Privacy Shield, qui n'était pas jugé suffisant par les Européens. Et donc, en attendant, eh bah, Facebook va devoir payer, se retrouve à devoir payer cette amende d'1,2 milliard, devoir aussi suspendre tout transfert de données de l'Europe vers les États-Unis dans un délai de 5 mois, effacer toutes les données qui sont déjà stockées, donc c'est quand même assez lourd. Alors Facebook, ils se défendent, ils disent non, mais on ne devrait pas avoir à payer ça, d'ailleurs ils vont faire appel évidemment, parce qu'on est un peu pris entre le marteau et l'enclume, entre deux législations qui sont contradictoires. Les États-Unis qui nous obligent effectivement à avoir un droit de regard, les agences américaines peuvent d'une manière ou d'une autre avoir accès à nos données, et puis de l'autre côté, les Européens qui l'interdisent, donc c'est quand même assez problématique. Et c'est vrai que cette sanction, elle est aussi là pour mettre la pression sur Washington, pour accélérer un peu la signature de cet accord. Ce qui est sûr, c'est que le signal envoyé est quand même assez fort, parce que derrière le cas Facebook, bah, c'est toutes les entreprises américaines qui gèrent des données européennes qui sont potentiellement concernées. On peut penser à celles qui font du cloud, même des entreprises comme OpenAI et ChatGPT, bah, vous avez des données aussi d'Européens qui partent vers les États-Unis. Donc vraiment, le message, il est assez clair. C'est soit vous vous mettez en conformité avec le RGPD, soit vous risquez de payer très cher.
Stéphanie Hospital, c'est un changement, peut-être pas un game changer, mais quand même ces amendes records.
Alors, c'est bien, on commence à s'intéresser à comment les entreprises stockent les données et puis surtout, on arrive à avoir un levier sur des amendes.
Ouais.
Alors, je ne veux pas dire je m'en réjouis parce qu'on se réjouit jamais d'avoir ça, mais nous, on a investi dans une société qui s'appelle, avec One Ragtime, qui s'appelle Hive, qui permet de faire du stockage de données partagées. Donc, c'est David Gurlet et Antoine Clergé qui ont créé ça. Donc là, le principe, il est super simple. C'est qu'on va tous partager ce qui nous reste en capacité de stockage et en capacité de calcul pour pouvoir héberger localement des données. Donc là, on n'a plus de problématique. Elles sont aux États-Unis ou elles sont dans le lieu où l'on consomme.
Pierre-René Lemas, l'Europe. En plus, l'Irlande ne voulait pas faire une amende record comme ça, mais c'est l'Europe qui tord le bras aux autorités irlandaises. C'est bien.
Oui, d'ailleurs, je crois que ça a été initié par un Autrichien, l'Irlandais, qui a lancé la procédure.
Schrems.
Si j'ai bien lu. Écoutez, moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Je trouve que c'est très bien. Il va y avoir un appel. Je demande à voir. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, il y avait eu comme ça une amende, je crois que c'était à l'égard d'Apple en Irlande. De
13 milliards.
Donc on est, vous voyez, facteur...
On a de la marge.
C'est de la petite bière, c'est la rigolade.
La marge, ensuite il y a eu appel, compromis, et puis finalement, qui a gagné ? Apple. Donc je demande à voir, quoi. C'est-à-dire.
Parce que l'Irlande, encore une fois, elle ne voulait pas
payer. Bien sûr.
L'Irlande ne veut pas les taxer parce que c'est un paradis fiscal.
L'Irlande n'a pas intérêt.
François.
On a la chance d'avoir un commissaire européen, dans le coup, la personne de Thierry Breton, qui fait un travail là-dessus remarquable pour défendre nos intérêts vis-à-vis de ces grands opérateurs qui eux-mêmes ont des difficultés. Alors effectivement, il y a ce sujet des amendes. On sait tous que quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est nous, pour la data. Et puis, vous avez des problèmes d'anticoncurrence. On a Google et Microsoft aujourd'hui qui sont en train
Google dit que Microsoft...
des positions dominantes, etc.
Ouais.
Ça veut dire malgré tout qu'on est dans un secteur qui a pris une telle dimension et qui a pris une telle place dans nos vies qu'il est évident... qu'il est stratégique pour nous, Européens en tout cas, d'exister. Et quand je dis exister, c'est simplement faire valoir nos droits. Et cette mesure fait partie des choses qui sont plutôt rassurantes.
Alors après, Meta, quand on avait évoqué pour la première fois la possibilité de les taxer, enfin de leur mettre une grosse amende autour de ce sujet-là, ils avaient brandi la menace de sortir du marché européen. Je sais pas si. Oui, non, mais attendez. C'est, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit publiquement. L'Europe, c'est quand même un quart de leur chiffre d'affaires. Je suis pas sûr qu'ils
y aillent, qu'ils partent.
Bah oui, mais c'est la menace, en tout cas, qu'ils
personne n'y
croit.
En tout cas, ça met un grand coup de projecteur sur les pratiques des gros acteurs de l'Internet. Et aujourd'hui, on parle des données. Mais demain, il va falloir qu'on ouvre le capot sur comment sont bâtis les algorithmes.
Ah bah
parce
oui.
que l'enjeu autour de l'intelligence artificielle générative, elle va être là. C'est pas simplement les données, c'est aussi comment elles sont utilisées et comment on arrive à les rendre éthiques.
Mais il y a des entreprises qui se rendent compte qu'elles sont pillées aujourd'hui par ChatGPT pour les data, justement.
Samsung, notamment, qui a interdit, Apple aussi, interdit à ses ingénieurs et à ses salariés, tout simplement, d'utiliser ChatGPT parce qu'ils se rendaient compte que, notamment, les ingénieurs mettaient des morceaux de code, du code source de Samsung dans ChatGPT pour le corriger ou pour l'améliorer. Sauf que ce code source, ensuite,
il
se retrouvait siphonné et réutilisé dans des discussions qui n'avaient rien à voir avec Samsung. C'est quand même un peu problématique.
Merci à tous les quatre d'être venus débriefer avec nous ce matin.